Radio Laser.
Le portrait.
Le portrait.
Sur Radio Laser.
Son métier le destinait à prendre soin de nos corps, mais il prend aussi soin de nos esprits. Loïc Gentil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes masseur kinésithérapeute, ostéopathe tissulaire installé à Rennes dans le quartier de Villejean. On va expliquer évidemment ce qu'est la notion d'ostéopathie tissulaire parce qu'elle peut détonner dans nos oreilles, mais on peut dire que vous ne considérez pas forcément le corps comme une machine. C'est ce qui vous différencie un petit peu de vos homologues masseurs kinésithérapeutes.
Oui, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je conçois le corps comme quelque chose de vivant. En fait, quand je fais mes séances, l'objectif, c'est de me mettre au service du corps. C'est pas moi qui vais emmener ma science vers le corps, mais c'est le corps qui va me dicter où il faut aller et quel chemin il faut prendre pour arriver à trouver la solution, puisque le corps a une fonction qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité de s'auto-guérir. Ben en fait, l'objectif des séances, c'est de permettre aux patients de remettre en action cette capacité, cette homéostasie. Voilà. Donc moi, je suis juste là pour essayer de guider le patient pour que cette homéostasie se mette en place, quoi. Donc je me mets au service du corps et du patient et non pas j'amène ma science et j'essaye de faire rentrer le symptôme et tout ça dans les cases que j'ai appris. J'essaye de me mettre en position de découvreur, en fait, quand le patient arrive, quoi.
Une démarche différente, effectivement, de celle que vous avez apprise. On va essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là après des années de pratique. La notion aussi que vous défendez, c'est que l'esprit et le corps ne font qu'un, finalement. Est-ce que parfois le corps dit des choses de l'esprit de vos patients?
Ah oui, tout à fait. En fait, le corps est juste l'expression de ce que vit le patient. Oui, je pars du principe que le contexte dans lequel évolue le patient a une influence très importante sur les symptômes qui peuvent apparaître pour lui, quoi.
Donc c'est important de discuter aussi avec lui pendant la séance.
Bah, c'est important, de discuter, de savoir dans quel contexte est apparu les symptômes pour lesquels il vient consulter. Et après, c'est important aussi de faire sentir au patient que effectivement il n'y a pas de hasard, enfin que le symptôme n'apparaît pas comme ça par magie, c'est qu'il y a tout un processus qui a fait que ça a amené ces symptômes là, quoi. Donc le fait de prendre conscience de ça, ça lui permet de trouver un petit peu les clés par rapport à son mode de vie, par rapport à son dans le contexte dans lequel il évolue, ce qui peut changer pour que les symptômes s'améliorent, quoi.
Et est-ce que ça veut dire aussi parfois que des patients viennent pour un point particulier et que finalement ils repartent guéris d'un autre point totalement différent?
Ah oui, tout à fait. Oui, ça arrive assez souvent que on guérit le symptôme pour qu'ils viennent, puis après ils reviennent soit à la séance d'après ou soit même quelques mois plus tard en disant qu'effectivement il y a des symptômes qui se sont améliorés grâce à ça, quoi.
On va revenir sur tout ça, Loïc Gentil, avec vous aujourd'hui, donc masseur kinésithérapeute, ostéopathe tissulaire. Parlons de votre parcours de vie. Est-ce que déjà enfant vous vous destiniez à ce métier de masseur kinésithérapeute?
Alors enfant peut-être pas, mais en fait moi j'ai déjà voulu travailler dans le milieu du sport. Au départ je voulais faire prof de sport, mais je me voyais pas enseigner finalement. Enfin voilà, j'avais besoin d'avoir des gens motivés pour faire. Donc
je
me suis rappelé de mes années de collège où j'avais voilà les filles qui voulaient pas faire de sport et machin, et je me sentais pas capable de motiver tout ce groupe. Donc pour rester dans le sport, je voyais les kinés à la télé, donc voilà, ça m'a donné envie de faire cette formation. Après je me suis bien amusé dans cette formation, toujours avec cette notion d'essayer d'aller dans le domaine du sportif. À l'issue de mes études, j'ai très vite été limité par rapport à ce que j'ai appris. Il y avait beaucoup de choses que j'arrivais pas à résoudre, à trouver la solution avec le patient. Donc du coup, j'étais voir du côté de l'ostéopathie, qui m'a apporté plein d'autres clés, plein d'autres ouvertures. Et ce qui m'a permis d'aller vraiment de m'épanouir complètement, c'est d'aller découvrir l'ostéopathie tissulaire, qui est enseignée par un ostéopathe du côté de Granville, Pierre Tricot, et qui m'a fait prendre conscience de cette notion vraiment globale du corps et de l'esprit, quoi. Et donc du coup ça m'a ouvert plein de portes, parce que du coup en fait comme je disais au départ, le fait de pas faire rentrer le symptôme forcément dans une case, on arrive à trouver plus de solutions, et surtout chaque séance elle est différente, et du coup chaque séance est intéressante, et même pour en tant que thérapeute tous les jours on apprend, quoi. Donc c'est ça qui est génial, quoi.
Et on va faire d'abord le distinguo de masseur kinésithérapeute et d'ostéopathe pour le grand public. Peut-être que la différence n'est pas forcément marquée.
Alors la différence devient de plus en plus ténue, mais en fait si on essaie de caricaturer un peu les choses, le kiné il va soigner vraiment un symptôme précis, une zone précise. Par exemple, vous avez vous êtes cassé une cheville ou voilà ou un bras, bah le kiné il va essayer de rééduquer toute cette zone-là, de donner de la mobilité à toute cette zone-là, ou d'enlever le symptôme précis si on a mal au dos dans une zone précise. Alors que l'ostéopathe, il va pas forcément s'attacher aux symptômes, il va essayer de voir dans la globalité du corps ce qui, où sont les blocages. Et généralement, en enlevant les blocages, on résout le symptôme, quoi. C'est ça la différence, quoi.
Et l'ostéopathie tissulaire, qu'est-ce qu'elle ajoute à ça?
Alors, elle ajoute le côté, effectivement, on essaye de prendre vraiment encore plus de largeur par rapport au patient, comme je disais, c'est-à-dire que vraiment tout le contexte de vie, contexte émotionnel, contexte psychologique du patient, qui fait que, on intègre vraiment toutes les facettes qui constituent un être humain, et du coup, ça ouvre encore plus de portes et de clés pour dénouer des symptômes, quoi.
Ça a été une redécouverte de votre métier quand vous avez découvert l'ostéopathie tissulaire?
Ah bah oui, c'est sûr que ça a été, surtout que c'est complètement différent de l'approche qu'on peut avoir dans le monde médical actuel, quoi, où tout est très fragmenté, tout est très voilà, on a de plus en plus de spécialistes qui vont vers la plus spécialiste du spécialiste du spécialiste. Donc alors ça a des résultats, hein, mais voilà, quelquefois ça rentre pas dans la case et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc les patients, on les laisse un petit peu dans la nature. Et ces patients-là, c'est vrai qu'avec l'ostéopathie tissulaire, on a des résultats qui peuvent être intéressants, quoi. Et du coup, c'est très satisfaisant pour le thérapeute, quoi.
Et vous continuez d'ailleurs à apprendre aujourd'hui. Vous avez travaillé par exemple sur la méditation. Ça apporte encore un supplément à votre travail?
Oui, parce que en fait, ça permet d'être vraiment posé et de vraiment d'être encore plus à l'écoute du tissu. Hein. C'est-à-dire que l'ostéopathie tissulaire, c'est vraiment on est à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Donc on essaye de suivre ce qui se passe dans le corps. Donc le corps est composé de tissus. Et les tissus, si tout va bien, on sent du mouvement, et si ça va pas bien, on sent quelque chose de figé. Et l'objectif, c'est de redonner du mouvement à ces zones qui sont figées, et la méditation permet d'être vraiment posé, d'être vraiment complètement à l'écoute, complètement concentré, c'est pas vraiment concentré, mais d'être vraiment présent à ce qui se passe sous nos mains et à travers le patient, et du coup ça apporte un plus, quoi.
La relation avec le patient, parlons-en également. Loïc Gentil, ostéopathe donc tissulaire à Rennes et masseur kinésithérapeute, c'est une relation vraiment privilégiée qui se construit au fil des séances avec vos patients.
Déjà dès la première séance, on essaie d'avoir une relation privilégiée. Déjà moi, je prends le temps, c'est-à-dire que c'est des séances qui durent une heure, donc je prends le temps d'accueillir le patient, de le faire parler, et puis après un temps important où voilà, on est en contact avec lui, mais pas forcément dans la parole, mais rien que le fait déjà de donner un temps où il se pose pendant une demi-heure, trois quarts d'heure sur la table, dans le monde actuel, c'est déjà quelque chose qui permet d'avoir une guérison, ça apporte déjà un plus, quoi, parce qu'en fait tout va vite, quoi. Donc même chez le médecin, ça va vite, même chez tout va vite. Donc le fait de se poser pendant un temps même qui est beaucoup plus important que les patients ont l'habitude de se poser, déjà ça permet au corps de libérer un certain nombre de tensions. Donc déjà de prendre ce temps, ça c'est important. Et puis après, je me souviens plus parce que
la relation privilégiée.
Oui, du coup, elle est privilégiée par le fait qu'on laisse du temps, quoi. On laisse du temps aux choses de s'exprimer, on laisse le temps aux patients de s'exprimer, on laisse le temps au corps de s'exprimer. C'est la relation, elle va être là, privilégiée là-dessus, quoi. Dans l'écoute et dans le temps que le patient a de pouvoir exprimer les choses ou laisser son corps libérer les choses, quoi.
Et vous intervenez sur une séance seulement spécifique, ou est-ce qu'il y a parfois des suivis? C'est selon?
Alors, c'est selon les demandes du patient. Le plus souvent, c'est sur une ou deux séances. Et après, j'ai quelques patients, des fois, qui désirent faire un suivi. Et donc, dans ces cas-là, on va un peu plus dans ce qu'on peut appeler le développement personnel, où on va essayer d'aller creuser les inconforts corporels qu'il peut y avoir et essayer d'aller creuser, voir d'où ça peut venir, quoi.
Mais vous avez des méthodes qui peuvent bousculer quand on est habitué au kiné plus traditionnel?
Oui, tout à fait. Oui, c'est des méthodes qui peuvent bousculer. Après, et la plupart des gens viennent par bouche à oreille, donc déjà maintenant, au départ, c'était pas le cas, donc effectivement, il y avait beaucoup de temps d'explication, parce que ça changeait des méthodes dites classiques. Maintenant, j'ai la chance que les gens viennent un peu plus par bouche à oreille, donc du coup, ils sont déjà un petit peu prévenus, parce que les gens qui vont venir, ils savent. Mais effectivement, oui, ça peut bousculer, et surtout, ça peut aussi bousculer dans le sens où des fois, il y a des décharges émotionnelles qui peuvent arriver pendant les séances. Le fait de se prendre son temps, de lâcher, on lâche des tensions, une tension qui dit émotionnelle, et du coup, ça peut s'exprimer par des pleurs, des choses.
C'est régulier, ça?
Ça arrive, c'est pas le plus souvent, mais ça peut arriver, quoi. Hein, voilà, mais c'est, ça fait partie du processus. Enfin, voilà, on nous a donné la faculté de pleurer, donc ça sert à quelque chose.
Et vous, vous avez la faculté de gérer à ces moments-là aussi? Vous l'avez appris? Vous l'avez,
bah,
vous
êtes formé? Après, ça s'apprend petit à petit avec, à force, avec les séances. On sait que c'est des choses qui peuvent arriver et que, voilà, c'est pas, on rassure le, enfin, je rassure le plus possible les patients par rapport à ça, en disant que, voilà, c'est normal. Enfin, ça peut. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça peut, quoi.
C'est une vraie relation de confiance, donc, que vous tissez avec vos patients à force. Est-ce que certains sont devenus aujourd'hui vos amis en dehors du cabinet?
Oui, bah après moi, oui, c'est quelques-uns. Après, moi, je soigne aussi mes amis, donc voilà, je fais pas distinguo, mais oui, j'ai une relation, je pense, de confiance avec mes patients. Mais des fois, il faut s'en méfier aussi parce que y a des patients qui sont vraiment accrochés du coup à moi, sûrement à d'autres thérapeutes qui travaillent comme moi. Hein, je suis pas le seul. Et donc du coup, faut aussi mettre un petit peu une distance, quoi, parce que voilà, on n'est pas le guérisseur, celui qui arrive à tout faire. Je prétends pas tout guérir non plus, hein. Je pense que j'ai des bons résultats, mais je suis pas non plus le grand Manitou à tout guérir, quoi.
Vous parliez tout à l'heure de l'homéostasie, c'est cette faculté donc du corps à pouvoir se guérir par soi-même. Comment vous encouragez le corps et pourquoi le corps ne le fait pas sans vous, sans votre aide, sans votre apport?
Bah, parce que le corps, il met en fonction l'homéostasie quand on lui a donné la possibilité de le faire. Donc, c'est-à-dire que quand on est en connexion avec son corps. C'est-à-dire que je donne souvent l'exemple, on a intégré depuis qu'on est tout petit que quand on se coupe, le corps va guérir tout seul les choses. On le sait, c'est intégré. Donc, de toute façon, on s'inquiète pas. C'est-à-dire que quand on se fait une coupure, on s'inquiète pas, on sait que ça va guérir. Par contre, dès qu'on a un symptôme qu'on ne connaît pas, si on met de l'inquiétude, si on met de l'attention ou si on n'écoute pas ce symptôme-là, ben, le corps va se figer par rapport à ça. Par contre, si on se met en relation avec cette tension et qu'on lui met quelque chose, un message positif ou quelque chose qui lui dit, bah voilà, en gros, je laisse faire, et ben du coup la tension va s'en aller ou la douleur va s'en aller. Hein, c'est le principe de tout ce qui se passe en ce moment, enfin toutes les tendances en ce moment, la sophrologie, relaxation, méditation, tout ça, enfin toutes les ou pilates, machin, ben c'est cette base là ou tous les arts martiaux, c'est cette base là, c'est-à-dire qu'on laisse le temps au corps pour qu'il libère ses tensions, quoi. Mais faut lui laisser le temps, il faut être connecté à lui. C'est-à-dire que dans le monde actuel, si on est sur son écran machin, ben on n'est pas connecté à son corps. Si on est au travail, ben on n'est pas complètement connecté à son corps. Si voilà, tout fait que ben y a des tensions qui se mettent en place et on laisse pas le temps au corps de gérer. Donc c'est pour ça que les gens sont accros aux vacances, hein, parce que ben, c'est le seul moment où ils peuvent un peu se poser et laissent le temps un petit peu au corps à faire ce qu'il a à faire, quoi.
Mais en transmettant ce secret-là à vos patients, vous les perdez à tout jamais? Le glantil ne revient plus jamais, non?
Ah non, je les perds pas, parce que après, c'est pas parce qu'on en a pris conscience qu'on va le faire forcément derrière.
C'est l'avantage, effectivement.
Radio Laser. Le portrait. Le portrait. Sur Radio Laser.
Loïc Gentil, vous parliez aussi de votre amour du sport. Le sport, vous l'avez d'ailleurs intégré. Je crois que vous avez participé notamment à la vie du stade Rennais Rugby pendant des années. Ça a été une belle expérience.
Ah oui, ça m'a permis d'apprendre vraiment mon métier, puisque en fait, quand on est confronté à des sportifs et sportifs de haut niveau, parce que j'ai eu la chance de côtoyer des filles là au stade Rennais Rugby qui jouent en équipe de France et ça, donc du coup, il faut des résultats et des résultats rapides. Donc, c'est vraiment on teste les techniques qu'on apprend, on les teste. Voilà. Moi, j'ai fait tout mon cursus d'ostéopathie en étant kiné-ostéo de cette équipe-là, donc du coup, j'ai vraiment testé toutes les techniques. Et ça m'a permis de voir, de valider ou de pas valider les choses. Donc c'était très très intéressant, quoi.
Dans un sport en plus où le corps est mis à rude épreuve, donc j'imagine que vous avez eu des cas d'école à pratiquer.
Oui, tout à fait. Oui. Ça permet de. Ben oui, après toutes les blessures classiques, les entorses, les fractures, voilà, les choses, et puis même les tensions. Et puis après, il y a aussi tout le côté, le fait de côtoyer des sportifs de haut niveau. Pour revenir au corps et à l'esprit, il y a tout le côté un peu émotionnel et psychologique qui est important d'appréhender, parce que bah voilà, il y a beaucoup de blessures qui peuvent arriver dans un contexte particulier. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il y a rarement du hasard, hein. C'est-à-dire que voilà, quand on suit un peu les sportifs de niveau, on constate que il y a des gestes, des actions qui font des milliers et des milliers de fois, et puis hop, tout d'un coup un jour il y a la blessure. Pourquoi ce jour-là? On peut se poser la question. Bon, moi, je me pose la question, et je pose la question, j'essaie de se poser la question avec le patient. Et souvent, bah, y a un contexte qui fait que, voilà, bah, ce jour-là, il était peut-être pas concentré, il avait autre chose en tête, il avait machin, il avait truc. Et donc, c'est ça, cette notion d'écouter le corps, elle vient aussi là-dessus. Elle permet aussi d'éviter peut-être un certain nombre de blessures, quoi.
Vous êtes vous-même un sportif aguerri, cette notion-là, est-ce que vous l'appliquez à vous-même? Est-ce que ça vous arrivait d'être blessé dans des périodes et désormais de comprendre pourquoi vous avez été blessé?
Oui, ça m'est arrivé. Après, depuis que je pratique ça, je suis rarement blessé. Mais je sais que ça m'a beaucoup aidé, par contre, dans les courses que j'ai pu faire, aux choses comme ça. C'est-à-dire que le fait de bien me connaître, bon, après, j'ai la chance d'avoir un métier où je connais bien le corps humain, donc c'est plus facile, mais le fait de bien me connaître, comme j'ai fait des épreuves assez longues de course à pied, le fait quand il y a une douleur ou quelque chose ou un symptôme qui apparaît, tout de suite, je sais ce qui se passe. Donc du coup, tout de suite, je me rassure. Donc du coup, je pars pas dans la panique en me disant ça c'est fini, je vais pas y arriver, machin et tout. Je sais ce qui se passe et j'arrive à mieux gérer les choses, quoi.
Ces courses, notamment l'Ultra Trail du Mont Blanc, course mythique, une des plus fameuses au monde, des beaux souvenirs, on l'imagine, pour vous.
Par contre, oui, ça c'était vraiment un beau souvenir. Voilà, c'est. J'ai atteint mon graal, c'est-à-dire j'ai atteint ce que je pouvais atteindre en course à pied, pour moi en tout cas. Le fait d'avoir réussi cette course à la finir, ouais, c'était vraiment super. Et puis la montagne, en plus j'ai eu la chance d'avoir un temps vraiment correct, avec des beaux.
Combien le temps?
Le temps, j'ai mis, je crois que j'ai mis 42 heures. Il y avait donc une épreuve du Trail du Mont Blanc, c'est 160 km et 10 000 de dénivelé positif. Mais c'était super, des belles images, ouais, ce qui me reste c'est le lever du soleil après la première nuit passée à courir sur le Mont Blanc. Là, ça, je pense que ça me restera à vie, cette image là c'était génial. Et d'ailleurs bizarrement ça m'a reboosté, le soleil qui arrive et je courais plus, et d'un coup je me suis remis à courir et j'ai doublé plein de monde, et on sait pas pourquoi, c'est comme quoi, vous voyez, l'esprit d'un coup se trouve quelque chose de positif et les jambes suivent derrière, quoi. Donc voilà.
Il y en a d'autres aussi, le grand raid autour du golfe du Morbihan par exemple.
Ça c'était vraiment aussi une belle épreuve, bien, enfin, c'était vraiment la mieux gérée, enfin voilà, il y a moins de dénivelé, hein, c'est souvent que du plat. Et ouais, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des coups de mou pendant cette épreuve là, donc c'était vraiment chouette.
C'est bon signe. Sur 160 aussi,
177 ouais. Mais c'était voilà, bien géré. Bon, après voilà, mais ce qui est plus dur, c'est comme je disais, enfin comme on disait dans la partie avant, ce qui est le plus dur c'est la préparation, c'est voilà, de s'astreindre à faire une préparation régulièrement, ça. Après la course, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Vraiment, faut voir ça comme ça.
Ça, c'est la vision que vous avez, vous. Est-ce que c'est la vision qui est partagée de votre expérience, des coureurs que vous rencontrez peut-être dans votre activité, dans leur pratique quotidienne? On a l'impression que c'est devenu presque une addiction pour certains runners aujourd'hui, de partir s'entraîner tous les jours, quoi qu'il arrive.
Pour certains, oui, c'est sûr que c'est une addiction. Parce que ça leur donne un exutoire par rapport à leur quotidien, et puis certains aussi, ça leur donne un exutoire par rapport à, peut-être qu'ils sont pas bien dans leur vie, pas bien dans leur quotidien, et du coup, le fait de partir courir, ça sécrète des endorphines, et voilà, ça peut être une drogue, oui, ça c'est clair. Après, moi, j'ai toujours fait que trois ou quatre sorties de course à pied par semaine. Comparé à d'autres qui peuvent s'entraîner 6-7 fois, oui, c'est pas beaucoup, quoi.
La Bretagne, c'est un terrain de jeu idéal, justement, quand on court?
Alors pour la montagne, non, c'est pas l'idéal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes. Pour anecdote, moi je me suis entraîné, alors j'ai pas le droit, voilà, mais voilà, je l'ai fait quand même. Je m'entraînais pour ceux qui connaissent le quartier à Rennes, je m'entraînais dans la Tour des Horizons. Je montais et descendais les 32 étages de la Tour des Horizons pour m'entraîner, pour avoir du dénivelé, quoi, pour que ça monte et que ça descende. Mais sinon, après, oui, il y a des beaux endroits, enfin, du côté de Redon, il y a beaucoup de courses qui sont sympas à faire avec pas mal de dénivelé, ouais, c'est sympa.
Le corps et l'esprit, justement, on en a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toute l'expérience que vous avez emmagasinée dans votre carrière professionnelle, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment dans votre parcours sportif par rapport à ce que vous avez appris sur ces relations entre corps et esprit?
Non, j'ai pas par rapport à ma pratique, enfin non, parce que j'ai eu la chance de pas me blesser, donc je pense que j'ai toujours réussi à bien m'écouter. Après, j'étais pas dans la performance à outrance, hein. Mon objectif, c'était toujours de finir. Je voulais pas faire un temps. J'ai pas fait de régime spécifique. Voilà, j'ai toujours sorti avec les copains. J'ai toujours eu des week-ends festifs. Voilà, je m'arrêtais quelques semaines avant quand même les épreuves, mais voilà, j'ai jamais arrêté ça. Et je pense que c'est important important parce que ça met moins de pression. Ça met moins de pression par rapport à la course. Alors, si on veut réaliser un temps, c'est différent. Mais en tout cas, ça met moins de pression et on arrive plus détendu à la course. Et voilà. Et on met moins d'attente par rapport à cette course, même si on a envie de réussir, mais on met moins d'attente, quoi.
Vous parlez de vos amis, des sorties entre amis, même avant les courses, quelques semaines auparavant. Quand on est masseur kinésithérapeute, quand on est ostéopathe tissulaire, combien de fois par semaine vos amis vous demandent des massages ou des conseils pour aller mieux? Tout le temps?
Ouais, ça peut arriver, quoi. souvent en tout cas. Après, comme je vous dis, voilà, je soigne aussi mes amis, donc s'ils ont besoin, ils m'appellent, et puis généralement, je leur fais une séance, quoi. On essaie de s'organiser ça. Après, moi, ça fait partie de moi, je suis très content de donner ces conseils-là, je pense que c'est, voilà, moi, je vis un peu pour ce métier, enfin, voilà, je vis ce métier, quoi. C'est difficile de couper entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que, voilà, en m'écoutant, j'apprends des choses qu'après je peux donner aux patients. Enfin voilà, en faisant de la méditation, j'apprends aussi. Enfin, c'est un peu tout le temps, quoi. Qu'on est tout le temps dans l'apprentissage. C'est la vie qui va vous permettre, qui permet d'apprendre, qui permet d'affiner les sensations, qui permet de voilà d'être plus présent, d'être voilà. Et le fait de se soigner, moi, pour en revenir à Pierre Tricot qui m'a appris l'ostéopathie tissulaire, il a dit un bon ostéopathe, c'est celui qui se soigne. Parce que combien de médecins, combien de ne se soignent pas, parce que je sais pas quoi d'ailleurs, j'en sais rien, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait que on commence à se soigner, à aller se mettre à la place du patient, déjà on apprend ce que c'est être à la place du patient. Le fait d'enlever des tensions en nous, on est plus détendu, donc quand on accueille le patient, ça se ressent. Enfin tout ça, il y a des énergies qui se mettent en place, quoi. Si on est complètement fermé, le patient qui arrive, il va sentir qu'on est complètement fermé. Si on a travaillé un peu sur nous, un peu plus ouvert, on va pouvoir, et puis on va pouvoir plus gérer justement les décharges émotionnelles, les choses comme ça, parce que c'est des choses peut-être qu'on a déjà vécues soi-même, donc c'est plus facile derrière à gérer, quoi.
Est-ce qu'il y a des axes de votre métier que vous souhaitez prolonger là dans les années qui arrivent, que des choses que vous souhaitez encore apprendre sur le cerveau par exemple? Est-ce que prolonger votre apprentissage de la méditation, de la réflexion et du développement personnel, c'est quelque chose qui vous motive pour les années futures?
Ah oui, tout à fait, ouais. Après oui, la compréhension du cerveau, c'est intéressant, surtout moi ce lien du contexte qui est comment apparaît le symptôme, quoi, dans quel contexte apparaît le symptôme. Je trouve que c'est une clé à creuser pour qu'on découvre des choses et pour que les gens se prennent un peu plus en charge, quoi, par rapport aux soins, quoi. Moi, ce qui me dérange, mais c'est-à-dire qu'on rend un petit peu les patients dépendants des médecins, dépendants de tout ça. Et ce qui serait intéressant, c'est d'aller plus vers la préventif et leur apprendre que, effectivement, il y a des choses qui sont liées au contexte. Et si on change le contexte, c'est plus simple, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. La plupart des gens qui se font des lumbagos ou qui se bloquent, c'est parce qu'ils sont dans un contexte de stress, de tension, voilà. Et si on leur apprend ça, peut-être qu'ils vont être un peu plus à l'écoute et qu'ils feront, voilà, il y aura moins de lumbago, donc du coup moins d'arrêt de travail, moins de tout ça, et ça peut être intéressant, un axe intéressant à développer, ouais.
Mais quand vous nous l'expliquez comme ça, on a l'impression que c'est du bon sens. Pourquoi ça ne découle pas de bon sens pour chacun d'entre nous?
Alors là, parce qu'en fait, on n'a pas appris aux gens à écouter leur corps. C'est-à-dire qu'on est dans une culture où la solution vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a un problème de santé, on va voir quelqu'un. Alors que peut-être que si on arrivait à, je sais pas, voilà, des petits, voilà, comme ça se fait un petit peu dans les pays asiatiques, hein, d'écouter un peu son corps, d'avoir de savoir que y a des énergies qui circulent, des choses qui circulent, et qu'on a notre rôle à jouer par rapport à ça, ça serait plus simple, quoi. Et voilà, après c'est peut-être aussi je sais pas, la société judéo-chrétienne dans laquelle on évolue, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu le Dieu ou je sais pas qui décide pour nous, donc voilà, alors que je pense qu'on a notre part de, on peut jouer notre rôle par rapport à ça, quoi. Donc
c'est important de s'ouvrir donc à notre corps. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à rencontrer Loïc Gentil, donc masseur kinésithérapeute ostéopathe tissulaire installé à Rennes dans le quartier de Villejean. On a bien compris que votre métier, c'était votre passion, le sport est également. Quels sont vos autres moyens d'évasion, Loïc Gentil? On va conclure rapidement là-dessus. Est-ce qu'une balade, par exemple, sur la côte de Saint-Malo, ça peut faire partie de vos moyens d'évasion?
Oui, tout à fait. Oui, la randonnée, ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, moi, j'ai découvert aussi, je reste dans le sport, mais j'ai découvert depuis 4-5 ans le surf, et aussi un bon moyen de s'évader. Et puis après, d'être en famille aussi, hein, voilà.
Les meilleurs spots en Bretagne pour surfer, c'est quoi?
Le meilleur spot, c'est le spot à la plage des Longchamps, là, à Saint-Briac, et puis sinon, c'est sur Quiberon, quoi. Hein, ce qui est bon,
voilà. Loïc Gentil, merci beaucoup.
De rien.